Bonjour et bienvenue dans notre émission Écrire l'histoire. Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, trépassait le citoyen Napoléon Bonaparte, exilé sur l'île de Sainte-Hélène après avoir été Napoléon Ier, empereur des Français entre 1804 et 1815. Nous recevons aujourd'hui une de ses multiples biographes, Nathalie Petitot, professeure en histoire contemporaine à l'Université d'Avignon et autrice d'un ouvrage consacré à Napoléon et sous-titré « La nation incarnée » paru chez Armand Collin en 2015. Bonjour Nathalie Petitot.
Bonjour.
On va parler ensemble de la trajectoire de Napoléon, du travail de biographe. Un mot avant de la controverse qui existe à propos de la commémoration annoncée de ce bicentenaire de la disparition de Napoléon. À votre avis, est-ce qu'il est plus sage, après tout, de laisser les historiens travailler sur ce personnage, s'exprimer sur lui, ou est-ce qu'il est souhaitable que le pouvoir donc commémore Napoléon? Certains disent que ça aboutira forcément à lui rendre hommage, alors qu'il a été, je reprends les titres de vos chapitres, hein, un monarque autoritaire et un chef de guerre aveuglé. Donc on voit bien le problème que ça pose pour des républicains aujourd'hui.
Oui, effectivement, mais on peut commémorer sans véritablement célébrer. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas comprendre la France contemporaine sans prendre en compte l'épisode napoléonien, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Louis Bergeron autrefois, épisode parce que très court en effet, mais il n'en demeure pas moins que ces années 1800-1815 sont fondatrices de la France contemporaine. Or, je rappelle que commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble, et c'est le moyen de comprendre. Et donc, je crois qu'il est important de faire la distinction entre la commémoration d'une part et la célébration d'autre part. Et ce qui est annoncé en matière de commémoration, donc pour le 5 mai 2021, c'est un dépôt de gerbes. Bon, on en fait beaucoup, des dépôts de gerbes, d'une part, aux Invalides, donc, et puis, avant ou après, je ne sais pas, un discours à l'Institut, ce qui est assez habile. J'attends avec impatience de voir le contenu du discours. Mais le lieu même est extrêmement symbolique. N'oublions pas que Napoléon a été membre de l'Institut, hein, et que donc c'est tout à fait révélateur. Voilà, donc la commémoration peut être l'occasion d'inviter la nation tout entière à faire œuvre d'historienne, les historiens étant là quand même pour aider précisément leurs concitoyens à être en paix avec leur passé. Et donc, si c'est l'occasion de mieux comprendre, c'est absolument essentiel, parce que nous le voulions ou non, Napoléon fait partie de notre histoire. Alors, à partir du moment où il en fait partie, ben, autant justement se donner les occasions de comprendre ce qu'est cette histoire-là, tout simplement.
Comme vous dites là, on enregistre cette émission, on est encore à fin avril, donc on verra effectivement le contenu du discours. Et voilà, on peut se souvenir, tout en étant critique, hein, vous insistez sur le fait que, par exemple, le mythe du grand homme en France est très lié aussi à la période napoléonienne, et c'est un mythe qu'on critique très fortement ici à Mediapart. Alors venons-en à des enjeux plus historiographiques, puisqu'on est dans une émission sur l'histoire. Un mot sur le travail de l'historienne confrontée à Napoléon, sur lequel il existe, je ne sais pas combien, mais des milliers de livres. Quelle stratégie on adopte quand on a un homme qui a été à ce point commenté, à ce point mythifié? Dans votre introduction, vous dites vouloir garder tout le temps à l'esprit l'espace des possibles et la pluralité identitaire du sujet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors, vous le dites vous-même, il s'est agi de faire la biographie de ce que l'on appelle un grand homme. Bon, je tiens à préciser que, d'entrée de jeu, je n'étais pas, favorable à écrire une biographie. J'ai écrit un livre entier pour dire qu'il y en avait suffisamment.
Oui, vous avez passé votre carrière à dire qu'il faut voilà. Remettre la focale sur l'Empire en tant que tel et moins sur Napoléon.
Absolument. Et donc, Armand Collin m'a quand même finalement convaincu de me livrer à l'exercice. La maison d'édition a-t-elle eu tort ou raison, je ne sais pas, parce qu'au final, de ce fait, le livre étant paru, j'ai quitté le terrain. Peut-être que c'est assez révélateur de ce que écrire cette biographie m'a conduite à tourner définitivement la page. Et donc, si vous voulez, justement, écrire la biographie d'un grand homme demande de l'écrire en sachant que, précisément, quand on parle, par exemple, de Bonaparte en 1799... il n'agit pas forcément, même si ça commence peut-être déjà à ce moment-là, en se disant « je vais être un grand homme qui va marquer l'histoire ». Et par conséquent, il s'agit de, et c'est l'enjeu de tout biographe, pour tout biographe, c'est-à-dire de se replacer devant le personnage tel qu'il est au moment dont on parle et non pas tel qu'il est advenu. C'est-à-dire que, tout simplement, il faut en permanence se garder de toute téléologie, c'est-à-dire de ne pas écrire l'histoire en sachant ce qu'il est advenu. Ça, c'est la difficulté pour l'historien, c'est que par définition, il connaît la fin de l'histoire. Mais Bonaparte, lui, en 1799, ne la connaît pas.
Ouais, il ne sait pas qu'il va devenir Napoléon, quoi.
Voilà, absolument. Et donc, il faut, par exemple, quand on écrit sur l'homme de 1799, ne pas penser, ne serait-ce qu'à 1804. Bon. L'autre grande difficulté étant que, bien évidemment, on croule sous les sources, d'un côté, mais de l'autre, la voix même de Napoléon se tait, en quelque sorte, entre 1799 et 1815. C'est-à-dire que tant qu'il est aux affaires, d'accord, on a sa correspondance extrêmement abondante, mais toute sa correspondance intime, bon, très certainement, il l'a brûlée à Fontainebleau en 1814. Et donc, tout se passe comme si, pendant l'Empire même, on a le discours de ses contemporains, mais on perd sa voix alors qu'on a des écrits de jeunesse extrêmement nombreux et qu'ensuite, on retrouve sa voix à Sainte-Hélène.
Alors, en quelques minutes, on va évidemment pas refaire l'épopée napoléonienne, mais on va s'intéresser à des nœuds biographiques, à des thématiques qui en disent autant sur Napoléon que sur la société dans laquelle il a évolué, justement. On va commencer par voir s'afficher un portrait de Pascal Paoli, qui fut le chef de la République Corse avant que la Corse soit intégrée à la France en 1768. Vous rappelez à quel point, ça c'est moins connu quand même, Napoléon a justement idéalisé Paoli et le paolisme, et à quel point il se projetait au début de sa carrière militaire dans une carrière politique en Corse plutôt qu'en France. Qu'est-ce qui l'animait comme idéal à ce moment-là de sa vie, dans sa jeunesse ?
Napoléon a effectivement grandi dans une famille où il y avait tout un légendaire autour de Paoli. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il est nourri de cette culture-là. Et cette culture-là, c'est quoi ? C'est celle d'un petit pays, la Corse, dont Rousseau lui-même avait dit, je crois, qu'elle étonnerait le monde, parce que Paoli, en 1755, met en œuvre une constitution extrêmement moderne et que l'on a beaucoup oubliée. Et c'est une constitution qui est extrêmement démocratique, qui est tout à fait moderne. Et le père même, d'ailleurs, de Bonaparte a participé à cela. Alors, quand les Génois vendent, entre guillemets, parce que c'est plus compliqué, la Corse aux Français, une guerre éclate, les parents de Bonaparte sont un temps aux côtés de Paoli, et la famille de Bonaparte participe à cette épopée. Bonaparte grandit là-dedans et Bonaparte découvre les écrits de Paoli, découvre ce qu'a fait cet homme et pour lui c'est véritablement le grand homme. Et quand de surcroît Bonaparte à partir de l'âge de 9 ans est isolé dans son collège de Brienne, eh bien il y a véritablement un processus d'identification et il se réfugie dans la certitude que d'accord, il est moqué par ses camarades parce que Corse, il parle mal le français, il a des habitudes autres. Mais justement, il le retourne en disant « mais moi, je suis fier d'être Corse parce que la Corse, c'est Paoli ». Et donc, n'oublions pas que Bonaparte, de ce fait, est un jeune homme des Lumières. Ouais. Il est fasciné ensuite par Rousseau en 1789, quand la Révolution éclate. Il est complètement dans les idées nouvelles de son siècle.
Alors, on va voir comment les choses ne se retourne peut-être pas, mais évolue. Vous racontez comment Napoléon réussit une ascension militaire dans une France révolutionnaire où les rapports de force politique sont changeants. Il réussit à tirer son épingle du jeu. Et on va voir s'afficher un tableau de Gros qui montre Napoléon à la bataille du Pont d'Arcole en 1796. Donc là, il est déjà un général fameux. Il est dans une posture avantageuse sur le tableau. Alors, vous vous rappelez qu'il s'est quand même enfoncé dans un marais jusqu'au buste. Hein, donc là, la réalité était un peu différente. Mais c'est une bataille qui se déroule pendant la période dite du Directoire, donc on est fin des années 1790, et c'est à l'issue de cette période que Bonaparte prend le pouvoir. Et donc avant cette prise de pouvoir, est-ce que ce sont des années, là si on se décentre un peu de Bonaparte lui-même, ces années du Directoire, est-ce que ce sont des années où, ça y est, le pouvoir militaire en fait finit par prendre le dessus sur le pouvoir civil. Alors qu'au début de la Révolution, alors même que la France était attaquée par les autres monarchies, le pouvoir civil avait toujours l'ascendant sur le pouvoir militaire. Est-ce que c'est des années d'inversion? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça?
Oui, parce que le problème, effectivement, pour la France révolutionnaire, c'est que l'Europe s'oppose à elle. Et que dans cette guerre déclarée par l'Europe, eh bien, la France révolutionnaire a en effet besoin de victoire. Et il se trouve que Bonaparte, mieux que n'importe quel autre des généraux de la Révolution, les lui apporte. Et en apportant ces victoires, n'oublions pas qu'il apporte de l'argent dans les caisses du Directoire. Parce qu'une armée, il faut la gérer. Hein, et que donc l'argent que puise Bonaparte en Italie en mettant en coupe réglée les villes qu'il conquiert, nourrit son armée d'une part et renfloue les caisses du Directoire d'autre part. Et de ce fait, eh bien, oui, Napoléon, par son ascendant, vient un peu, concrétiser les prophéties de Robespierre qui aurait dit que, attention, de la guerre allait sortir un général victorieux qui risquait de confisquer la Révolution française. Bon, c'est plus compliqué que cela en réalité, mais quand même. En même temps, eh bien, Bonaparte, dans la nécessité précisément de gérer ses levées de fonds, etc., est confronté aux réalités de la guerre et à la nécessité d'organiser un pouvoir qui permette contrôler ces territoires, voilà, et les répressions.
Là, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que, c'est un enfant des Lumières, en quelque sorte, mais vous expliquez bien dans votre livre que cette occupation de l'Italie, c'est un moment où se révèle un Napoléon qui devient beaucoup plus autoritaire et qui s'éloigne de cette philosophie des Lumières.
Oui, oui, et c'est ça qui, c'est pour ça, bon, tout à l'heure, quand vous disiez que il faut effectivement, que j'ai rappelé que quand on écrit une biographie, il faut prendre en compte l'espace des possibles. Ben, l'espace des possibles, quand Bonaparte était en Italie, c'était soit il restait fidèle à ses idéaux de jeunesse, soit il répondait aux nécessités de la guerre. Et compte tenu de son métier, si je puis dire, il n'a finalement, sauf à démissionner et à vraiment rester impur, eh bien, il n'a pas pu faire. Il n'a pas fait autrement que de répondre aux nécessités de la guerre. Et là, en effet, il commence à changer.
En restant un militaire. Alors pour autant, vous mentionnez que c'est sa campagne en Égypte. On va avoir un autre tableau assez célèbre qui le montre avec son entourage dans la campagne d'Égypte. Donc là, on est en 1798-99. Vous dites que c'est cette campagne-là qui l'a vraiment changé. Vous écrivez une phrase assez forte. Vous dites « c'est alors que Bonaparte devient Napoléon ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, parce que là, je crois que c'est vraiment en Égypte qu'il achève de perdre ses illusions. Ses illusions politiques, il a essayé de proposer presque une république musulmane. Enfin, il a essayé de prendre en compte les données du pays et il n'est pas compris. Il y a de gigantesques incompréhensions parce qu'il est allé beaucoup trop vite. Hein, il a cru vouloir comprendre les Égyptiens à la conquête desquels il était parti et il a fait cela beaucoup trop vite, d'une part. Donc, il se dit que quand on tend la main, ça ne fonctionne pas forcément, mais il l'a mal tendu, si je puis dire. Et puis, il cesse d'être aussi un grand romantique. Là, il perd ses illusions au sujet de Joséphine. Et qu'on le veuille ou non, sans rentrer dans la petite histoire, mais chaque être humain est fait de cela. C'est là aussi qu'il cesse donc d'être un grand romantique parce que il a compris que décidément Joséphine le trompe et de ce fait il se tourne donc de plus en plus vers des espoirs politiques et il regarde du côté de la France en estimant que c'est à ce moment-là, quand il est en Égypte, qu'il peut peut-être arriver au bon moment pour prendre le pouvoir.
Alors justement, on est quelques mois plus tard, on va voir s'afficher un tableau qui immortalise le coup d'État du 18 Brumaire 1799. Bon, c'est ce qu'on appelle le consulat, après il y aura l'Empire. Même s'il y a eu des plébiscites, qu'est-ce qu'on a comme indice en tant qu'historienne du consentement de la population au nouveau régime qui voit le jour et qui s'avère, vous le documentez, de plus en plus personnalisé, autocratique, policier, puisque l'espace public est peu à peu réduit à néant quand même.
Oui, alors la question est très complexe. D'une part, on a effectivement des opérations électorales, hein, c'est-à-dire que on soumet notamment la constitution donc issue du coup d'État à l'approbation populaire, mais on sait très bien comment donc ces plébiscites, parce qu'en réalité on pose la question à la population, est-ce que oui ou non vous approuvez cette constitution. On sait très bien comment les résultats sont truqués, particulièrement pour le premier plébiscite. Laissons de côté, si on le veut bien, ces données chiffrées qui néanmoins, alors entre 1800 et 1804, on a un peu progressé et un peu mieux respecté la voie plébiscitaire, si je puis dire. Et c'est vrai qu'en 1804, apparemment, il y a quand même une forte majorité de Français qui sont d'accord avec cette façon de clore la Révolution. Mais encore une fois, ces données chiffrées valent ce qu'elles valent et elles peuvent être donc sujettes à caution. Donc essayons le qualitatif, si je puis dire, et en matière de qualitatif, on a les deux versants. On a à la fois, bien évidemment, des opposants farouches qui dénoncent cette dérive autoritaire du pouvoir, on est dans la lignée de la Révolution française, effectivement, mais n'oublions pas que l'on a aussi, et ça je ne m'attendais pas du tout à trouver de tels documents dans les archives, au moment de la proclamation de l'Empire, on a dans les archives des lettres spontanées de Français extrêmement modestes, maîtrisant très très mal l'écriture, l'expression écrite, et qui n'en ont pas moins la volonté d'exprimer leur soutien à l'empereur dans des mots extrêmement touchants, qu'on peut retrouver dans le livre que j'avais publié sur les Français et l'Empire. Et alors, ce ne sont que des indices qualitatifs, bien évidemment, hein, mais qui sont néanmoins extrêmement révélateurs. C'est-à-dire que durant l'Empire même, on a à la fois bien évidemment des opposants, par ailleurs tout un môle de notabilités qui sont très satisfaites de ce que ce retour à l'ordre est bien pour l'économie, et puis des Français modestes qui nourrissent déjà, on est sous l'Empire même, une véritable dévotion pour cet homme qui incarne à la fois la nation, mais qui propose des cadres politiques monarchiques très faciles à comprendre, mais avec un monarque qui vient du peuple. Pour beaucoup de Français, il vient du peuple. Mmh. On oublie qu'il a de petites noblesse corse, etc. Mmh. Hein, et voilà, donc il y a ces facettes multiples. Et donc, il faut avoir le souci des nuances.
Ouais, et un soutien qui est aussi dépendant de la gloire qu'il acquiert sur le plan militaire. On va y venir en fin de conversation. Mais pour évoquer justement cette période de l'Empire donc, qui est proclamée le 18 mai 1804, je n'ai pas choisi le célèbre tableau du sacre de Napoléon qu'on connaît bien, mais une œuvre un peu moins connue qui montre le mariage de Jérôme Bonaparte, donc c'est un frère de Napoléon, avec Catherine de Wurtemberg en 1807. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'on y voit représenter justement ce que vous évoquiez avec le cadre monarchique, on y voit représenter une noblesse d'empire, tout ça après quelques années à peine après la Révolution. Sur quel principe cette noblesse est-elle fondée et en quoi elle se différencie de la noblesse de l'ancien régime que la Révolution avait mis à bas ?
Alors effectivement, la création de la noblesse d'empire, c'est presque l'aboutissement de l'œuvre sociale de synthèse opérée par Napoléon. Napoléon a bien compris, et il le signale quand il crée la Légion d'honneur, que les Français ont besoin de reconnaissance. Et donc, il va plus loin encore avec la noblesse d'Empire, parce que la Légion d'honneur, elle est finalement vite devenue pléthorique. Donc, avec la noblesse d'Empire, créée en 1808, eh bien, il y a la volonté véritablement d'opérer la synthèse entre les élites anciennes et nouvelles, mais en respectant le principe de la méritocratie. Synthèse avec les anciennes élites, parce que, par exemple, des nobles de l'Ancien Régime ont reçu un titre d'empire. C'est ce qu'on appelle les nobles refaits. Mais Napoléon veille à ce que chacun...
Je vous arrête. Du coup, c'est très différent, effectivement, de l'Ancien Régime, où on appartenait à un ordre par le fait de sa naissance, quoi.
Certes, mais n'oublions pas qu'au point de départ aussi... dans l'Ancien Régime, il y a la noblesse d'épée qui est au mérite, au départ, et la noblesse de robe, où en effet on pouvait acheter son titre. Bon, là, effectivement, c'est vraiment une noblesse du mérite, hein, et une noblesse sans privilège. C'est-à-dire que, en réalité, on parle de noblesse d'empire, mais en réalité, ce sont des titrés de l'empire, hein, qui n'ont pas les privilèges des nobles d'ancien régime. Ils payent des impôts. Hein, ils ont juste le droit de constituer ce que l'on appelle un majorat, c'est-à-dire de préserver une partie de leurs biens pour les léguer d'un bloc à leur fils aîné, éventuellement. Mais donc, on reste véritablement dans l'égalitarisme.
Alors, ben justement, puisqu'on a cette discussion sur les élites et les bases sociales de l'Empire, un mot à propos du rétablissement de l'esclavage que Napoléon accomplit. Là, on est encore sous le consulat, hein. C'est pas encore l'Empire, mais enfin bon, ça fait partie des choses pour lesquelles la commémoration est critiquée, puisque l'esclavage avait été aboli sous la Révolution, et donc lui le rétablit. Est-ce qu'il faut le lire comme un geste presque purement stratégique de la part d'un homme qui cherche des assises sociales à son régime et qui, ce faisant, satisfait les intérêts d'une certaine bourgeoisie coloniale ou de négoce avec ce qui reste des colonies françaises? Est-ce que c'est oui, ça qui le guide en premier plutôt qu'une idéologie?
Incontestablement, hein, il y a dans ce rétablissement de l'esclavage cette réponse-là. Alors, au risque de choquer, j'aimerais quand même souligner que pour tous les hommes et les femmes de ce temps-là, l'idée selon laquelle il y a une hiérarchie des races, elle est omniprésente. C'est-à-dire qu'on pense cela comme on respire. Mais songeons que c'est encore le cas quand même dans les armées américaines qui débarquent en France en 1944. Et que les Noirs américains qui ont vu la situation dont ils pouvaient bénéficier en France n'en croyaient pas leurs yeux. Donc il faut... Et ça nous permet de comprendre ce que pouvait être l'état des esprits en 1802. C'est-à-dire que pour tout le monde, absolument tout le monde, absolument tout le monde, sauf peut-être quelques révolutionnaires restés purs, bien évidemment, mais c'était, comment dire, ce rétablissement ne faisait pas problème. C'est malheureux.
Sauf qu'il y avait quand même eu des, bon, d'abord des révoltes, oui, évidemment, dans les colonies, et puis relayées ensuite par des gens en métropole qui ont quand même proclamé l'abolition. Donc il y avait aussi un camp pour l'abolition.
Absolument, mais ce camp en 1802 est de nouveau extrêmement minoritaire. C'est un camp politique et n'importe quelle industrie, enfin la plupart des hommes d'affaires, par exemple, ne se posaient même pas cette question-là. Néanmoins, quand Napoléon côtoie, par exemple, des esclaves à Sainte-Hélène entre 1815 et 1821, il revient sur le sujet et il reconnaît qu'il a eu tort. Et encore une fois, c'est ça qui est extrêmement incroyable, c'est-à-dire que l'homme des Lumières, enfin le jeune homme qu'il a été, réapparaît à Sainte-Hélène.
Une fois qu'il a perdu le pouvoir. Alors, on en vient aux aspects militaires qui sont quand même prégnants pendant toute la période, celle de la Révolution et évidemment celle de l'Empire a fortiori. On va voir apparaître une toile du célèbre peintre Turner sur la bataille de Trafalgar, qui est perdue par les Français en octobre 1805 contre la flotte anglaise. Certains historiens vont jusqu'à dire que tout s'est joué lors de cette bataille, en réalité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce que vous expliquez de manière assez limpide dans votre ouvrage, c'est que Napoléon a voulu utiliser l'arme du blocus commercial contre la puissance britannique, hein, contre laquelle il était impuissant militairement. Sauf que c'est ça qui l'a entraîné dans un engrenage guerrier sur tout le continent qui a fini par le dépasser, quoi. Il s'est enfermé dans cet engrenage, il n'a pas su en sortir, c'est ça que vous expliquez.
Oui, effectivement, parce que Trafalgar... Cela signifie pour Napoléon qu'il ne doit plus espérer vaincre l'Angleterre sur les mers. Et que par conséquent, c'est sur terre qu'il peut espérer l'emporter. Tout simplement parce que ce conflit avec l'Angleterre, il s'est noué quand même pendant la Révolution française. Hein, avec ce paradoxe d'un affrontement entre finalement les deux nations les plus avancées politiquement en Europe. Et dans le monde à ce moment-là. Bon. Cet affrontement, c'est donc un affrontement aussi économique. Et puisque Napoléon comprend, puisqu'il a perdu sa flotte, qu'il ne pourra plus vaincre l'Angleterre sur les mers, il s'emploie à utiliser la même arme qu'elle-même, hein, c'est-à-dire le blocus, et à veiller à ce que l'Angleterre ne soit plus approvisionnée en céréales, en bois, etc. Or, pour faire respecter ce blocus, donc ce blocage des côtes, eh bien, il faut effectivement qu'il maîtrise le continent. Alors, il y parvient tant bien que mal, mais il y a des fuites. Il y a des fuites au Portugal, il y a des fuites en Hollande, il y a des fuites en Russie, finalement, aussi. Et donc, les deux, notamment les deux bourbiers dans lesquels il s'est engagé, l'Espagne, la guerre d'Espagne en 1807, d'une part, et la campagne de Russie en 1812, ont pour cause, avant tout, la volonté de faire respecter le blocus en se disant, et Napoléon, je pense, était persuadé de cela, quand j'aurai vaincu, je pourrai établir une paix idéale en Europe, avec un gouvernement idéal, et donc il le fait en étant persuadé qu'il a raison.
Oui, alors c'est ça sur lequel je voulais insister avant qu'on termine. Vous insistez sur la sincérité du désir de paix de Napoléon, selon vous, le rêve de pacification générale qu'il aurait porté. Ce qui apparaît comme un paradoxe quand même, quand on voit l'engrenage guerrier dans lequel il était. Il me semble qu'on a un peu la solution dans une phrase que j'ai relevée. Vous dites, il est incapable de concevoir une paix qui ne soit pas une paix en faveur d'une Europe largement française.
Voilà, tout simplement. Hein, c'est vrai qu'il veut la paix, mais il veut une paix française. Hein. Et c'est pour ça que, notamment pendant la campagne de France en 1814, il n'arrive jamais à accepter les ouvertures de paix qui lui sont faites, au bon moment, si je puis dire, parce qu'il reste persuadé que ce qu'il offre à l'Europe de modernité politique est le bien. Et il s'enferme. Il s'enferme dans cela. Hein, mais c'est le paradoxe, effectivement, de ces guerres.
De ces guerres. Et là, vous parliez d'espace des possibles en début d'émission. Donc ça veut dire qu'en 1814, tout n'était pas écrit sur la fin du régime. C'est-à-dire qu'on aurait pu se retrouver avec, évidemment, pas du tout les mêmes frontières que celles qu'il avait conquises, mais avec un régime peut-être maintenu.
Complètement. Là, l'espace des possibles, en 1814, il change presque de, je ne vais peut-être pas dire d'heure en heure, mais de jour en jour, à certaines périodes.
Ouais. Alors, dernière question pour terminer cet entretien, puisque je crois que vous avez aussi travaillé sur les aspects de mythe autour de Napoléon. Comment on explique la dimension prise par ce mythe napoléonien? Est-ce que tout simplement, on a un peu tous les ingrédients réunis avec l'ascension, la chute d'un homme qui n'aurait jamais eu un tel destin dans des circonstances normales, entre guillemets? Ou est-ce que, c'est peut-être pas contradictoire, ce mythe a aussi été énormément produit par Napoléon lui-même et par les régimes qui l'ont succédé?
Oui, alors il y a tout cela. Effectivement, Napoléon est d'abord son propre artisan de sa légende. Ça commence en Italie quand il écrit lui-même dans le journal Le Courrier de l'Armée d'Italie, d'une part. Ensuite, tout au long de l'Empire, par les commandes de tableaux, par exemple. Donc il est l'artisan de son mythe, le premier artisan de son mythe. Sans oublier bien évidemment Sainte-Hélène, mais c'était peut-être un petit peu long de le développer. Enfin, il y a, n'oublions pas les erreurs des Bourbons à l'égard de son régime.
Les Bourbons, c'était la dynastie effectivement qui régnait auparavant et qui revient dans ce qu'on appelle la Restauration en 1815 avec Louis XVIII.
Oui, l'art avec lequel les Bourbons ont humilié effectivement les officiers, notamment de l'armée de Napoléon, a complètement servi la légende. Hein. Et puis, il y a aussi toute une littérature, hein, c'est-à-dire non seulement les écrits qui reviennent de Sainte-Hélène, si je puis dire, d'une part les mémoires dictées par Napoléon lui-même, d'autre part les récits de ses compagnons, en premier, Lascazes, qui lui revient dès 1816. Et il y a aussi les mémoires écrits par ses compagnons d'armes, par ses contemporains. Hein, les hommes et les femmes du XIXe siècle étaient extrêmement friands de cette littérature-là. Stendhal en témoigne. Hein. Enfin, n'oublions pas les hommes politiques eux-mêmes, hein, qui, en effet, ont une référence à l'Empire. Thiers est quand même l'un des artisans du retour des cendres en 1840. Ouais. Donc, il y a effectivement, et sans négliger donc, l'existence de ces hommes et ces femmes dont je vous parlais tout à l'heure, capables d'écrire des lettres spontanées de soutien, et qui, en effet, ont des actes qui témoignent de ce soutien. Voilà. Et puis, enfin, On enjolive en quelque sorte a posteriori hein, les années impériales qui étaient des années de gloire, qui ont été pendant quelques années aussi des années de prospérité économique, de salaires relativement satisfaisants. Donc a posteriori, on enjolive tout cela et il est vrai que cette mythologie s'est construite petit à petit et n'a cessé de grossir en quelque sorte pour exister encore aujourd'hui.
Ben je vous remercie Nathalie Petitot pour ces éclairages. Et donc je rappelle voilà cet ouvrage que vous avez consacré à Napoléon, mais aussi je renvoie à ceux que vous avez pu écrire sur l'Empire en général, parce que c'est bien aussi des fois de se décentrer des figures écrasantes pour voir la réalité sociale de l'époque et dont nous avons évidemment des héritages. Merci à vous.
Merci.
Merci et puis pour tous ceux qui nous ont regardés, je vous renvoie sur le site de Mediapart pour tous les autres entretiens du studio. Merci à vous.